Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme chaque lundi. Ça avait été la grande rétro de l'année 2024, il y a 15 jours, la semaine dernière. On avait reçu et on avait donc entendu un explorateur du sport cycliste. Et ensuite, on avait aussi parlé de photographie sportive avec Jean-Denis ou Walter. Eh bien, ce soir, ça va être tout sport de combat. On retrouvera le mag de nos amis MMA dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, première partie, on va la consacrer très largement à un sport qui était olympique il y a encore 3 ans, qui ne l'est plus, mais sport quand même assez pratiqué, c'est le karaté. Je reçois donc d'abord le professeur, donc Timothée Lévy. Bonsoir Timothée.
Bonsoir.
Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur et musicien.
Et musicien, dans une ancienne vie, encore, oui. un peu actif bien sûr.
Oui.
Et j'ai fait à peu près une dizaine d'années musique semi-pro, pro.
D'accord.
Et j'ai encore beaucoup d'amis dedans, donc je fais encore pas mal de concerts. Ouais.
Très bien. Le karaté, c'est un accident ? On y arrive comme ça ou comment ça s'est passé ? C'est arrivé au karaté ?
Alors, si c'est un accident, c'est un accident qui date de longue date. Parce que j'ai commencé, comme beaucoup de gens, le karaté et le judo d'ailleurs en France. On commence souvent très très jeune. Alors, il y en a évidemment qui commencent à tout âge. Là, en tant que directeur de club, je vois des gens, rien qu'encore aujourd'hui, j'ai eu un cours d'essai demain d'une personne qui est adulte. Hein, voilà, comme beaucoup. Voilà. Mais il y a une grande, grande partie des gens qui commencent le karaté à 4-6 ans. Et moi, j'ai commencé à 6 ans, ce qui est déjà un peu tard. J'ai un peu honte, je n'ai pas commencé à 4 ans, j'ai commencé à 6 ans.
Très bien, donc directeur et professeur du célèbre club parisien, j'allais dire le plus important, le plus grand, Horizon Karaté Club Paris. On aura l'occasion de mieux le découvrir. Et puis, Timothée, il est venu avec une des grandes espoirs du karaté français. Elle est sélectionnée en équipe de France Junior, c'est Inès Ordonez. Bonsoir Inès.
Bonsoir.
Quadruple championne de France, c'est ça, hein ?
Oui, c'est bien, ouais, ça.
Hein ? Donc, on découvrira un petit peu mieux ton quotidien, hein, à travers donc ton sport. On parlera de tes ambitions. Malheureusement, ce n'est pas un sport olympique. Maintenant, ça n'est plus un sport olympique. C'est un petit peu frustrant.
Oui, forcément, c'est un peu frustrant.
Oui, hein, de pratiquer un sport qui, bon, hein, on s'imagine, oui, voilà, qu'aurait fait rêver avec toutes les médailles olympiques.
C'est plus qu'un rêve. Quand on pratique un sport, forcément, on veut aller aux Jeux olympiques. Mmh.
Très bien. Puis je veux saluer celles et ceux qui m'entourent comme chaque lundi. Saluer d'abord Vanessa. Bonsoir Vanessa, ça va ? T'as passé une belle semaine ?
Très, très bonne,
ouais,
semaine.
Et puis lui aussi a passé une bonne semaine. Il est au repos la semaine dernière. Donc là, il s'est rattrapé cette semaine. C'est Alexandre. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Phil, bonsoir, ouais, à tous.
Il y a encore bien une belle actu sportive, hein ?
Il y a une très très belle actu, et je vous la dirai tout à l'heure dans le journal des sports.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on va commencer cette émission, puis on aura naturellement le point foot avec notre ami Stéphane, mais ça, il n'y a plus besoin de le préciser. Hein. En fin d'émission, comme chaque semaine depuis 2022. Allez, on va commencer donc par le karaté. Donc Inès, comment le karaté, il est rentré dans ta vie ?
Eh bien, c'est un peu ancestral, on va dire.
Oui, ça, bah, date, vas-y, t'es là pour ça.
Mon arrière-grand-père.
Et cette famille alors.
Oui, voilà, c'est, ouais, ça. Et puis un jour j'étais au parc Citroën et à ce moment-là je faisais du tennis. Et j'ai vu mon frère s'entraîner et je l'ai imité et on a tout de suite découvert un futur talent en moi pour ce sport. Et je me suis lancée dans le karaté et puis j'ai continué.
D'accord. T'avais quel âge ?
J'avais 3 ans et demi.
3 ans et demi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Timothée, elle veut en faire du haut niveau. Hein. C'est du haut niveau qu'elle fait. Elle ne conçoit le karaté que de cette façon-là.
Alors je ne sais pas si elle conçoit
de
cette façon-là.
Mais j'ai parlé un petit peu off avec elle.
En tout cas, ouais. Et je rebondis d'ailleurs, vous voyez qu'à 6 ans, j'étais vraiment à la bourre, hein, déjà.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai,
ouais. Oui, en tout cas, effectivement, Inès, elle est plongée dans un parcours avec l'excellence, puisqu'elle fait tous les championnats nationaux et du coup internationaux. Parce que quand on est champion de France, on n'est plus seulement là pour gagner le national, mais pour représenter la France à l'international. Eh oui, eh oui. Donc, il y a le parcours mondial, etc. Elle n'a pas dit, mais elle est 6e mondiale.
Oui, mais donc, on va le découvrir,
voilà,
le 6e mondiale.
Et du coup, forcément, quand on est avec ce statut-là, on est plongé les deux pieds et les deux mains dans le très haut niveau. Ce n'est même pas le haut niveau, c'est le très haut niveau. La seule chose qui fait que c'est pas encore complètement le graal ultime, c'est qu'elle est junior et c'est pas encore senior. Ouais. Donc il y a des ligues et des catégories plus élevées qu'elle. Mais à part, c'est juste cette idée qu'elle est junior et qu'elle a pas encore 18 ans, on est vraiment dans le très très haut niveau. Ouais. Donc forcément, ça oriente. Ben forcément, sa vie, ouais. Son esprit, sa manière de concevoir le karaté aussi, on est de pied dedans.
Alors moi, j'aimerais connaître ton quotidien. Tu passes combien d'heures à la pratique de ton sport ?
Alors, je pratique le karaté 12 heures par semaine, généralement.
12 heures par semaine, donc ça fait à peu près de combien ? 4 jours par semaine, 4 jours d'entraînement, à raison de 3 heures, non ?
Oui, à peu près, on va dire.
Oui, c'est ça.
Et ça dépend de mes études aussi.
Oui, alors, t'es étudiante, justement.
Oui.
T'es à quel niveau ?
Je suis en première et je loupe forcément des cours pour les déplacements à l'international, ce qui est forcément compliqué pour s'organiser niveau études et entraînement. Et forcément, des fois, on est obligé de zapper des entraînements pour pouvoir étudier.
Oui, ça, c'est un problème, Timothée. Ben quand on fait du karaté à très haut niveau, il n'y a pas l'INSEP parce que, bon, c'est pas un sport olympique, mais il y a des sports études quand même.
Il y a des sports études. D'ailleurs, avec le club, il y a de plus en plus de parents qui m'en parlent.
Oui.
Alors, c'est pas des sports études uniquement avec le karaté, mais c'est des sports études multisports. Quoi.
Des crêpes, par exemple, aussi.
Alors, il y a des crêpes qui.
Voilà, qu'on connaît bien sur Châtenay-Malabry, notamment.
Bah, voilà, bah, elle était aux crêpes sur Châtenay-Malabry.
Ah ouais, on connaît très bien. Tu sais qu'il y a Émilie Thuy qu'on a reçue, tu dois très bien connaître.
Oui,
on l'a reçue à ce micro il y a 2 ans. Elle était donc aux crêpes, hein, on avait fait une émission avec elle.
Alors, aux crêpes, Châtenay-Malabry, il y a un pôle combat où les gens sont en internat. Et ont des professeurs nationaux combat qui les encadrent à raison de 2 entraînements par jour, si je ne me trompe pas, etc. Et Inès, elle est spécialisée en kata, qui sont donc des mouvements dans le vide, et toutes des catégories à part. Mmh. Et donc, il se trouve qu'il n'y a pas de pôle kata au Krebs.
Ah, là là.
Et donc, elle fait des stages au Krebs de préparation, équipe de France, etc. Mais elle n'est pas en internat au Krebs, elle ne vit pas au Krebs.
Mmh. Oui, parce que... comme on fait cette émission, on se met dans la peau de l'auditeur, hein. Il faut quand même rappeler qu'il y a deux spécialités dans le karaté.
Oui, forcément, il y a le combat et le kata.
Ouais. Et tu es obligé de choisir des débuts ?
Alors, à partir de l'âge de 10 ans ou 12 ans, il faut forcément se spécialiser si on veut faire une compétition, des compétitions au niveau. Et si c'est par exemple un hobby, un passe-temps, on peut faire les deux. Mmh. En même temps.
Et après, on peut pas en changer, c'est fini, c'est trop tard.
Alors si c'est du haut niveau, on ne peut pas changer, il faut que ce soit un choix définitif. Et forcément, à l'âge de 10 ans, 12 ans, c'est difficile de faire un choix.
D'accord. Et les grades, c'est quand même les mêmes. Malgré tout, les grades, les ceintures, les niveaux, c'est les mêmes.
Oui, c'est exactement.
Qu'on fasse du combat ou du kata, c'est les mêmes.
Oui, c'est exactement les mêmes.
D'accord. Alors donc, toi, tu fais des études, tu veux t'orienter vers quelle profession ?
Je veux m'orienter comme mon frère en médecine, mais oui, voilà. Mais forcément, je pense aussi au karaté et on verra si j'arrête le karaté pour des études de médecine ou si je fais les deux en même temps. C'est un peu compliqué.
Bah oui, parce que bon, on l'a dit tout à l'heure. Naturellement, c'est de gagner des titres de champion d'Europe, de champion du monde, très haut niveau, hein, comme le disait Timothée. Mais le fait que ce soit pas une discipline olympique, c'est quand même un petit peu frustrant, quoi.
Oui, c'est forcément frustrant. Après,
on se donne des limites, on peut pas. Voilà, on va pas dire j'irai jusqu'à 32 ans parce que j'ai Brisbane, puis après j'étais.
Oui, forcément, c'est frustrant, mais après tout, il y a les championnats d'Europe, du monde et des Serie A, Youth League qui compensent. Mais savoir que le rêve de certains athlètes, c'est d'aller aux Jeux Olympiques et qu'il n'y est pas. C'est forcément décevant.
Oui. Et toi, ton entourage, bon, quand tu as dit que tu voulais prendre la succession de papa, je suppose que l'entourage a tout de suite été très favorable.
Oui, forcément, très content. Hein, mais après tout, il y a forcément une pression qui est sur mes épaules. Et je suis quand même soutenue énormément par ma famille et mes amis.
Alors, on va rappeler quand même tes titres. Hein. On a dit 6e mondial.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais.
Et 2e mondial en catégorie cadette.
Donc 4 titres de championne de France, c'est ça ?
Oui, exactement.
Ouais. Bon. Et 6e mondial, qu'est-ce qu'on gagne ? Pour être 6e mondial, qu'est-ce qu'on gagne comme compétition ?
Il faut gagner des Youth League qui nous permettent de gagner des points pour augmenter dans le classement. Et par exemple, si on fait championne d'Europe, on gagne énormément de points et on monte dans le classement dans première mondiale ou 2e mondiale. Tout dépend de notre placement.
Ouais. Ça veut dire que tu voyages dans le monde entier, quoi ?
Oui, c'est à peu près ça.
Ouais.
J'ai fait une Youth League il n'y a pas très longtemps, en Italie.
Mmh. Et ça va, c'est pas trop loin encore.
Oui,
ça n'a pas coûté trop cher. Ça, ouais.
Ça va. C'est justement ce que j'allais poser. Comment on arrive à effectuer tous ces voyages? Il y a des sponsors, des partenaires, les clubs, ils donnent un petit peu d'argent?
Dans le cas d'Inès, le club finance les Youth League.
Carrément.
Ouais.
D'accord, ok.
Du coup, je vous en reparle à la fin de l'année.
Ouais. Non, mais bon, oui, mais s'il y a 20 Inès dans le club.
Il n'y a pas 20 Inès dans le club.
C'est ça le problème aussi.
Voilà. Alors, pour être complètement, pour être complet, oui. Dans le cas d'Inès, on finance les Youth League à raison de 3 Youth League européennes dans l'année.
D'accord.
Sur les 5. Mais y a les autres, il y en a une aux Émirats Arabes Unis et une au Mexique. Et donc, le deal, c'est qu'on ne finance pas à 100% celle aux Émirats Arabes Unis.
Oui, là, ouais, cette Mexique n'est pas trop cher.
Cette année, elle est en février à Fujairah, à côté de Dubaï. Mmh. Ah, oui. On fait 50-50. Et à Mexique, à mon avis, on n'y va pas.
Elle a le droit d'avoir des partenaires financiers?
Elle a un partenaire qui donne des kimonos, un sponsor karategi.fr. Mmh. Salut Bruno Bandelier.
Oui, oui, bah.
Et il finance l'équipement, en fait, kimono-ceinture. En sachant que ça paraît. Un kimono de ceinture, ça coûte très cher, les kimonos de très haut niveau.
Oui.
Et en fait, il en faut beaucoup. Parce
que c'est
rouge,
ça, c'est ce que j'allais dire. T'en as combien, les kimonos? Puis on grandit fatalement, alors.
Oui, voilà, c'est ça. Et j'en ai pas mal. Et forcément, je les offre aux petits qui veulent.
Ah, c'est bien ça.
Mais c'est vrai que j'en ai énormément.
Parce que dans certains sports de combat, ça se revend.
Oui, forcément, mais je préfère...
Dans le judo, par exemple, si on est trop petit, ils sont trop petits, on vend à un jeune ou une jeune qui va se mettre à pratiquer ce sport.
Oui, forcément, il y a des personnes qui vendent les kimonos, mais j'ai pour principe de les donner, car ça va...
Bien.
À mon âge, j'aurais aimé qu'on m'en offre, et donc je les offre aux petits qui veulent faire du haut niveau.
Mmh. Alors, moi, j'aimerais savoir comment elle est sur le tatami. Vous êtes l'entraîneur, hein?
Ah bah, bon,
d'abord, quel type d'entraîneur êtes-vous? Vous êtes quelqu'un de très exigeant, plutôt calme, il y a des coups de gueule parfois?
Je ne sais pas, j'ai du mal à me décrire, peut-être Inès peut le dire mieux que moi. Moi, je me conçois comme à la fois exigeant, mais sympa.
Mm-hmm. Et avant une compétition, ça c'est toujours intéressant, vous parlez beaucoup?
Moi, je crois que je suis présent, ouais. Je crois que je parle beaucoup.
Et est-ce qu'elle a besoin qu'on lui parle beaucoup?
Je ne crois pas.
Ah, c'est ça.
Mais du coup, il faut que je m'adapte en tant que coach pour la laisser un peu tranquille.
Mm-hmm.
Et c'est pas une première, mais j'ai beaucoup d'athlètes qui aiment bien que je sois très présent.
Oui, oui.
Et en plus, c'est ma nature, du coup.
Oui, parce que ça dépend des tempéraments. Il y a des athlètes qui sont dans leur bulle, qui n'aiment pas trop qu'on leur parle. D'autres qui ont besoin d'être rassurés.
Et Inès, elle a. C'est chacun son caractère, quoi. Mais en tout cas, elle a beaucoup de caractère en compétition. En même temps, elle a des titres derrière elle, etc. Et donc, elle aime plutôt être dans sa bulle et tranquille. Mais je crois qu'elle aime quand même qu'on soit présent, mais présent avec une petite distance pour qu'elle puisse quand même se concentrer et tout.
Mm-hmm.
Et bon, après, on en a bien trop parlé, mais je pense qu'on se comprend bien non-verbal et tout.
Oui.
Parce qu'on a vécu beaucoup de compétitions ensemble quand même, donc voilà, on sait.
Il y a certainement une complicité.
Voilà, et donc il faut l'accompagner, mais garder une petite distance.
Ouais.
La cadrer, la rassurer, mais garder une distance. Il y en a d'autres, il ne faut pas garder de distance du tout. Mm-hmm. Ils aiment au contraire qu'on leur tape dans le dos, qu'on leur machin, qu'on soit quasiment avec eux jusqu'au bout du bout du bout. Je pense qu'Inès, si un jour je suis à la bourre, j'ai perdu mon sac et qu'il faut qu'elle y aille toute seule, elle y va toute seule sans problème.
D'accord, d'accord.
Ouais.
Et la famille, comment elle se comporte et quels sont vos rapports par rapport à la famille? Parce que, faut le dire, des fois, il y a des parents un petit peu trop présents. Voilà.
Ouais, alors, la famille d'Inès.
Ils sont presque entraîneurs.
La famille d'Inès, non seulement ils sont presque entraîneurs, mais ils sont entraîneurs, puisqu'ils sont karatéka et ils accompagnent Inès depuis qu'elle est toute petite. Et ils sont complètement intégrés à sa préparation. Alors, elle s'entraîne beaucoup, beaucoup au club. Quand parfois elle s'entraîne avec sa famille, je suis souvent présent, mais n'empêche qu'elle est quand même clairement préparée par sa famille aussi. Et au contraire, depuis le début, c'est pas du tout un frein ou en nous disant on n'est pas d'accord, le club décide de tout. On travaille main dans la main avec eux. Pour nous, on l'a vu tout de suite comme une aubaine en tant que club. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a besoin de tellement d'entraînement par semaine que si nous, on devait absolument tout faire tout seul, en fait, il faudrait qu'on embauche des profs parce qu'elle s'entraîne rien que elle, tellement de fois par semaine. Nous, on a tous les autres élèves à gérer. Donc, en fait, on voit ça comme une chance. d'avoir éventuellement un entraînement dans la semaine ou c'est pas nous.
Alors, justement, ça tombe très bien. Il n'y a pas 20 Inès. Il y en a combien dans le club ? 3, 4 quand même ?
Ah, des Inès ? Alors, des Inès, il y en a en France, il n'y en a aucune, quasiment.
Aucune, c'est
voilà, ouais, donc non, ça, c'est clair.
Ah, mais... vous avez une pépite alors, hein ?
Ah, bah, elle est quadruple championne de France.
Oui, oui, oui. Là, il faut la garder aussi, hein ?
Bah, c'est ce qu'on dit souvent,
oui. Eh oui.
Mais
il y a aussi du mercato.
Mais non, le mercato, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le mercato, il a déjà été fait dans l'autre sens. Il y a un an, elle n'était pas là. Elle est arrivée au club l'année dernière, au mois de mars.
Ah, d'accord.
Et donc, le mercato, il a eu lieu.
C'est elle ne nous a pas tout dit. Alors, t'as commencé d'où ? Tu viens d'où ?
Alors, je viens de Kimeido. Et suite à ça, j'ai changé de club parce qu'il faisait plus du traditionnel plutôt que la compétition. Mm-hmm. Et je suis allée à IGKDF Vannes. Et j'ai changé de club et je suis allée à Horizon.
D'accord. Alors, justement, ça va nous permettre de présenter votre club. Horizon, on peut dire que c'est le plus grand club de Paris ?
Alors,
Je l'ai dit au...
Oui, officiellement, alors il y a historiquement et officiellement cette année, je peux l'annoncer parce que j'espère ne pas me gourer, on est, et c'est un peu drôle, on est pile égalité avec le SIC, donc bravo le SIC aussi.
C'est quoi
le SIC ? Le SIC, c'est le club historique depuis 30 ans dans la capitale,
d'accord,
qui est le plus grand club de Paris depuis 30 ans.
D'accord, quel arrondissement ?
C'est 14e. Le
14e, oh, c'est pas très
loin. Oui, c'est le Sensei Serge Chouraki, 9e Dan, bonjour Serge.
Ah oui.
9e Dan, directeur technique
du département. J'ai eu l'occasion de le rencontrer.
Voilà.
Il y a une trentaine d'années.
Voilà, donc tous mes respects à Serge Chouraki, le SIC, etc. Et donc ça, c'est un club historique, pionnier de Paris, etc.
Il était venu sur Rambouillet à l'époque spécialement.
Ah oui, pour, mais il fait des stages partout, il a une aura internationale. Voilà, c'est vraiment le club à Paris. Moi, j'ai toujours connu, quand j'ai passé ma ceinture noire, ou je ne sais même plus, c'est M. Chouraki qui me l'a rendu. Il a toujours été là. Comme notre club est en plein dynamisme, en plein essor, notre club n'a que 6 ans. Donc c'est un club qui a été créé il y a 6 ans.
Ouais.
Et donc, on a eu de plus en plus de titres, etc. Et aujourd'hui, alors je parle des plus de 12 ans, si on prend les petits pupilles Benjamin à ce moment-là, et salut à Jefferson Bavarois, qui est un ami et qui a le club Sébucan Paris 12 dans le 12e. Si on prend les pupilles Benjamin, comme chez les pupilles Benjamin, le Sébucan Paris 12 est le meilleur club de Paris, au global, si on prend en compte les petits, c'est Sébucan le club le plus titré à Paris cette année.
D'accord.
Mais si on prend que les plus de 12 ans, c'est-à-dire les minimes cadets juniors seniors, nous sommes pile égalité, catacombes réunis avec le SIC, avec 11 titres chacun, et autant médailles d'argent, autant médailles de bronze. Alors c'est une égalité parfaite.
Ouais.
Et donc on est assez fiers d'être le meilleur club de Paris ex aequo.
Donc si je comprends bien,
si on prend les grands,
vous êtes club haut niveau, mais aussi vous êtes un club formateur.
On a à peu près 200 élèves, et on a des 4 ans, des 6 ans, et en compétition, on est présent dans toutes les compétitions, depuis les gens qui ont 6 ans jusqu'aux adultes plus grands qui naissent.
Donc les tranches d'âge, alors c'est de 6 ans à...
Bon,
vous en avez qui font du karaté loisir ?
Alors, on en a énormément qui font du karaté loisir. Là, on parle des compétitions. Mm-hmm. 80% du club ne fait pas de compétition. Il y a cours tous les jours.
D'accord.
Avec des gens très forts et des gens très investis, et puis même des gens moins forts mais investis, des gens qui veulent mincir, des gens qui veulent être en forme, des gens qui veulent s'épanouir, avoir un lien social, apprendre à se défendre. Enfin, ça, c'est la grande partie de...
Oui, parce
mon
que c'est
quotidien
avant
tout un sport
de défense, le karaté, faut quand même le
rappeler. Pour apprendre à se défendre, tout en étant un peu dans l'expression corporelle, la coordination, la maîtrise du souffle, plein d'autres choses qui sont du bien-être. Mais aussi apprendre à se défendre les deux à la fois. Et en compétition, il y a l'aspect performance qui rentre en jeu. Il y a 80% des gens et du quotidien du club et des professeurs, c'est l'aspect loisir. Et en loisir, il y a des gens qui ont jusqu'à plus de 60 ans.
D'accord. Alors vous êtes combien au club ?
200.
Au total ? 200. Pratiquants, pratiquantes, combien ? Parce que vous avez des entraîneurs,
on a à peu près 60% d'hommes, 40% de femmes.
D'accord.
Ce qui en fait fait de nous un club assez féminin.
D'accord. Ok. Alors, bon, je crois savoir que c'est le cinquième, le siège social du club.
Alors oui,
on
est majoritairement dans le cinquième.
Ouais.
Bonjour à la mairie du cinquième qui nous soutient depuis toujours et qui nous offre des lieux d'entraînement.
Ouais.
Et voilà,
plus, près du Panthéon quand même.
On a le gymnase Amio, on est aussi dans le 13e, dans le 1er, dans le 8e, dans le 11e.
Oh là là.
Ouais, un peu.
Comment on arrive à tout faire ?
On envoie beaucoup de rapports de résultats à la mairie. en disant Inès a gagné.
Oui, non, mais je veux dire.
La mère Florence Berthaud.
Elle connaît bien Inès, bien sûr. Ouais.
Mais,
on a gagné, on lui envoie ça.
Mais
tous
ça se passe comment c'est pour savoir qu'on va pratiquer son sport dans le 11e ou dans le 13e ou dans le 5e
On a un bon vélo.
Oui, non, non, mais je veux dire, par exemple, si on est junior, on va, on va dans le 11e. Si on est cadet, on va dans
En général, déjà la salle du 13e et les salles du 5e sont proches, parce que c'est 13e.
Oui, oui,
voilà. Et en général, vraiment, la majorité des cours, c'est soit 5e, 13e, soit le Forum des Halles, c'est-à-dire premier, mais c'est Châtelet-Les Halles, c'est pas loin du 5e.
Oui,
en fait, tous les cours sont par là. Le dojo même principal pour les compétiteurs, c'est Pont d'Austerlitz. Et donc après, les autres salles de cours, celle du 11e, celle du 8e, c'est plus des cours, on va dire, débutants pour les gens du quartier qui veulent avoir leur cours, mais c'est vraiment débutant. Et donc du coup, quand on devient très fort, bah forcément, il vaut mieux aller dans le 5e, parce que c'est mais parce que normal, quand on nous a donné une salle de cours dans le 11e...
Ouais, pour coordonner tout ça, chapeau hein.
Ah bah merci, il y a le planning.
Justement, pour le niveau loisir, est-ce que vous diriez que le karaté est aussi un outil de dépassement de soi et de connaissance des limites de son corps?
Oui. C'est... Surtout,
comment vous le... Oui.
Mais on fait beaucoup dans le karaté, on fait près 50%, même plus, de mouvements dans le vide.
Parce que justement, les katas, précisément...
en fait, la maîtrise des techniques, en karaté, on a la culture de vouloir le faire parfaitement dans le vide, comme si on faisait, vous voyez, un film d'arts martiaux, on fait le coup de pied parfait, le grand écart, sur le rocher, ce que vous imaginez très bien. Eh bien, le but, c'est de travailler sa vie à faire ça parfaitement dans le vide. Mais on fait la moitié du temps, ou un peu moins 40% du temps, c'est avec un partenaire. Mais donc, quand on travaille dans le vide, on travaille vraiment, justement, l'expression corporelle. Voilà, et donc ça, c'est clairement le développement de soi. Mmh. Oui, c'est pas la bagarre, quoi.
Non. Et s'il y a un coup qui part dans le combat, on est déclassé, hein. On est radié à vie, hein.
Alors oui, même quand
je
on fait...
Je me rappelle de Dominique Valera.
Oui, vous connaissez bien.
Vous
connaissez bien. Il avait mordu, là.
Oui, je sais qu'il a eu un problème et il avait été radié à vie, hein.
Bah, oui, alors il a créé le karaté contact et maintenant il est là dans le karaté contact. Mais en fait, en karaté combat, même dans les compétitions combat, c'est à la touche, c'est pas à la frappe et on n'a pas le droit de mettre KO. Après, encore une fois, je ne veux pas parler que de compétition parce que dans le karaté traditionnel, et c'est quand même ce qu'on fait majoritairement, parce que les compétiteurs, c'est juste une sorte d'expression du traditionnel, mais dans une sorte de jeu qui est la compétition. Mais normalement, en général, beaucoup de gens, surtout en kata, qui font du karaté. Compétition kata, en fait, ils sont très forts en traditionnel parce que le kata, c'est quand même l'expression de la tradition. Quoi. Et alors que karaté combat, parfois, on peut faire que du combat. En fait, on ne connaît pas très bien son karaté. On va dire. C'est comme si c'était musicien qui serait super doué, mais qui ne connaissent pas très bien leur gamme. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, bah, c'est là que musicien puis karaté, ça va très bien. Pour vous.
un musicien, par exemple, Jimi Hendrix, ça pourrait être un super combattant. Vous voyez ce que je veux dire? Il a tout le feeling et tout. Mais on lui demande quel est le mode dorien pour ceux qui connaissent la musique, etc. Jimi Hendrix, peut-être, il ne sait pas ce que c'est le dorien, il ne sait même pas lire la musique, etc. Il y va tout au feeling. Bah, les combattants, si on leur demande de faire tel kata et de passer leur grade, parfois, ils sont bien embêtés parce qu'ils se disent, en fait, moi, j'ai fait que ma spécificité toute ma vie. Et en fait, alors, il y en a qui savent très bien, hein, mais il y en a, finalement, ils ont tellement poussé sur un aspect que tous les autres, bah, ils sont en retard. Donc, ça arrive un peu moins pour les gens en kata, bien que peut-être que si on leur demande de faire un combat, c'est pas forcément génial non plus, parfois. Mais ça, c'est le haut niveau qui fait ça. Quand on travaille une spécificité tout le temps, forcément, on a... Voilà. Et au club, pour la grande majorité qui ne font pas le très haut niveau, en fait, on travaille un peu tout. Donc là, ça n'a plus sujet. Et dans la majorité des clubs, on travaille un peu tout. Et c'est que les compétiteurs très haut niveau qui doivent vraiment se spécialiser.
Parce que c'est aussi un état d'esprit.
Avant toute chose.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Karaté,
c'est ça. C'est une philosophie. Comme tous les sports de combat, c'est une philosophie quand même.
Oui,
alors, je sais que ça vient du Japon, vous.
Oui, ça vient du Japon, et je disais, pardon pour retomber, quand on disait il ne faut pas toucher ou mettre KO.
Les valeurs, c'est important.
Dans la compétition, c'est vrai, mais dans l'esprit du combat traditionnel, quand on passe un grade et tout, si moi j'ai passé mon 5e dan il n'y a pas longtemps, quand je fais un combat, alors on ne touche pas, mais on doit être dans l'esprit que si on m'attaque dans la rue et que je faisais pour de vrai, l'idée c'est vaincre en un coup. On travaille beaucoup les Ippon Kumite. Ippon Kumite, c'est un temps, une attaque, et on répond, on fait une défense. Et l'idée, c'est de mettre KO l'adversaire en une technique parce qu'elle est tellement bien que ça suffit. Donc, c'est pour ça qu'on travaille le coup parfait, entre guillemets. Voilà.
Et est-ce que la concurrence des autres sports de combat, ça vous a un petit peu enlevé de monde? Je pense, par exemple, à un sport qui est olympique, comme le taekwondo. Ça vous a enlevé un petit peu, enlevé des pratiquants qui voudraient aller faire un sport de combat au départ et qui disent, tiens, je vais peut-être plus aller vers le taekwondo que vers le karaté. Bon, le taekwondo, je crois que c'est un sport qui est coréen, par contre.
Hein. Oui, oui.
Et puis, il y a aussi le kung-fu aussi.
Oui, oui. Oui. Moi, au club, je peux pas vous... je peux vous donner deux chiffres. Le club ne souffre pas de ça, puisqu'on est en plein essor, mais je ne sais pas si d'autres clubs. La fédération n'a pas faibli, je crois. Si je veux être complètement exact, je crois que la part des karatékas et des karatékas baisse un peu et le Krav Maga monte un peu. Donc en fait, parce que le Krav Maga est rattaché à la Fédération Française du Karaté. D'accord. Du coup, je crois qu'il y a un peu moins de karatékas en proportion, même si dans les chiffres, ça ne se voit pas, c'est stable. Donc effectivement, au global, je pense que le karaté baisse un peu. Mais de notre côté, on ne le voit pas. Par contre, je peux vous dire que je crois que j'ai senti en tant que directeur de club l'impact négatif des JO, parce qu'il y a beaucoup de petits qui ont fait du judo cette année.
Et ben voilà.
Et donc
voilà, c'est pour ça. Fatal, vous n'êtes pas un sport olympique, donc fatalement, quand on est jeune, on préfère peut-être imiter ce qu'on a vu l'été à la télé.
C'est dur de rivaliser avec Teddy Riner sur l'Arc de Triomphe.
Donc on va sur le judo, on va sur le taekwondo, on va. Voilà, c'est ça. Il y a des catégories de poids aussi au karaté.
Ça dépend. En kata, il n'y a pas de catégorie de poids. D'âge surtout, mais en combat, forcément, il y a des catégories de poids et on doit faire attention à ce qu'on mange.
Toi, c'est ton cas, tu fais attention à ta diététique?
Alors, non, pas du tout. Non,
c'est bien.
Je mange à ma guise, mais c'est bien. Forcément, on fait attention, on ne va pas abuser, mais on garde une forme.
Oui, et les ceintures, on peut les rappeler. Vous êtes 5e dan, vous?
Oui.
Ouais. Mais tu peux peut-être un peu rappeler la hiérarchie des ceintures? Parce que ça varie des fois en fonction des sports de...
En fonction des sports de combat et en fonction des clubs parfois. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de normalisation très stricte avant la ceinture noire. Donc les clubs font un peu ce qu'ils veulent.
On peut être blanc, jaune, vert...
Au Japon, il y a 9 kyu au Japon, kyu, c'est-à-dire grade. Il y a 9 grades au Japon historiquement avant la ceinture noire. Le premier grade, enfin premier kyu, c'est la ceinture noire. Premier kyu, ceinture marron, premier dan, ceinture noire, mais... après il y a eu en France et en Occident il y a eu 6 couleurs. Alors il y a eu 6 kyu qui sont blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, et après la noire.
C'est
les grades classiques. Après nous par exemple on a 2 ceintures marron et on a beaucoup de clubs qui font ça. Là j'ai une élève des États-Unis qui veut rejoindre le club et qui me dit qu'est-ce que je mets comme ceinture du coup, parce que moi je suis ceinture violette. Chacun fait un peu à sa sauce. Par contre après ceinture noire, en général, en France, il y a quand même 6 grades. Mais après, encore une fois, c'est le bordel parce qu'au Japon, il y en avait 9. Du coup, il y a des clubs, pour rentrer 6 dans 9, ils mettent 2 ceintures bleues et 3 ceintures marron. Comme ça, le 6 devient 9. Donc, on ne change pas de ceinture, mais on change de Q dans la ceinture. Donc, ça devient un peu le bordel. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, historiquement, on a 2 ceintures marron, parce que justement, il y a une ceinture marron. En fait, on est encore deuxième Q. Il y a une ceinture marron. Là, on est premier Q. On a gravi le grade. Après la ceinture noire, on passe les Dan. Et là, par contre, c'est des examens fédéraux.
Ça rigole plus, là.
et du coup, on monte de grade en grade. Et donc, on est premier dan, deuxième dan, troisième dan.
Et sinon, les ceintures, on les a au bout d'un an. C'est le travail d'un an. C'est-à-dire, on fait du karaté, on passe l'année. Et puis, il y a une journée où on met les ceintures,
il y a passage de grade. Et en général, on a la ceinture, si on travaille très bien au bout d'un an, en général, plutôt un an et demi.
Et Inès, j'avais une question pour toi. Quel rapport tu nourris avec tes parents par rapport à la préparation mentale, vu qu'ils sont karatéka aussi, et physique? En quoi c'est différent de ton entraîneur?
Alors forcément, c'est mon père qui m'entraîne avec mon frère, donc c'est forcément différent qu'avec mon coach. Mais on entretient une forte relation de complicité, etc. Et il y a une certaine pression, mais ils sont toujours là pour moi.
Ouais. Ça veut dire qu'on parle toujours karaté à la maison ou on arrive à parler d'autre chose?
Oui,
justement,
pratiquement.
On peut pas être toujours dans la pression, quoi.
Oui, on parle généralement, on va dire, 80% de karaté.
Oui, parce qu'il y en a qui, justement, aiment et veulent rester dedans, et il y en a d'autres qui disent non, surtout pas à la maison, je veux parler d'autre chose, au cinéma, musique, autre chose, quoi.
Alors, moi, ça me dérange pas du tout parce que forcément, je suis passionnée de karaté. On parle énormément de karaté, mais je préfère que ce soit ça qu'autre chose.
Alors, entre le karaté, donc tu nous as dit 12 heures par semaine, tes études, tu as un peu de temps pour faire le reste?
Alors, dans une discipline de haut niveau comme celle-là, on doit forcément faire des sacrifices et donc les sorties avec des amis, c'est pas possible.
Oui, mais ça te frustre pas, c'est le choix que tu as fait?
Alors forcément, des fois, c'est frustrant, on se raisonne et on sait que c'est ce qu'il faut faire si on veut atteindre des objectifs.
C'est ce qui fait la différence, de toute façon.
Oui, forcément, le mental joue dessus. Et si t'as pas le mental,
quand les copines, elles envoient le texto, on sort ce soir, tu dis non.
Oui, je dis non.
T'as pas de regrets, quoi.
Non, enfin, forcément, des fois, j'ai quelques regrets.
Ah, quand même.
Mais je sais qu'il faut que je le fasse si je veux atteindre le niveau parfait.
Ouais. Alexandre, qui connaît bien le foot, c'était pareil pour les jeunes de Clairefontaine, Alexandre. Hein. Pareil.
Oui, hein. C'est sûr.
À 13 ans, 14 ans, pendant que les copains ils sortent au dehors, on les critique après, mais ils l'ont voulu plus que les autres. Hein.
Oui, c'est sûr. Mais j'avais une question aussi pour Inès. C'est à propos de... Est-ce que tu as la pression quand tu fais une compétition ou tu gères bien? Par exemple, quand tu es en finale de championnat de France, intérieurement, comment tu le ressens?
Ouais. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu es invivable? Est-ce qu'on peut rien te dire? Ou alors au contraire, tu es d'une sérénité?
Je dors très mal. Oui, forcément, on stresse, mais on le ressent
même
pas
forcément. Même avec les années?
Oui, même avec les années. Et surtout quand on est championne en titre, il y a énormément de pression pour garder ce titre. Et oui, je suis imbuvable. Timothée peut le confirmer.
J'ai rien dit.
C'est son rôle.
Je suis resté muet comme une carte.
C'est là qu'intervient le coach. Quand je disais, est-ce qu'on parle beaucoup?
En restant muet, il intervient.
C'est là qu'intervient le rôle du coach. Quand je dis, est-ce qu'on parle beaucoup? Est-ce qu'on reste à sa place?
Alors, moi personnellement, je suis imbuvable parce que je recherche la technique parfaite. Et donc, je dis, non, c'est pas parfait. Je vais pas assez vite, etc.
Même avec les parents?
Alors oui, même avec les parents.
C'est ça.
Parce qu'on te sent déterminé et on sent t'as vraiment pris tes responsabilités.
Ouais, c'est ça.
T'es passionné aussi.
Ouais, voilà. Et du coup, je ressens qu'il faut que je fasse la technique parfaite. Et forcément, mon coach a mal aux oreilles à force. Et il me dit de me calmer.
C'est délicat. C'est super ce qu'elle fait. Sinon, elle ne serait pas là où elle est.
Oui, bien sûr.
Avec le stress, elle a tendance à se tromper d'objectif. C'est-à-dire, elle a tendance à s'auto-coacher et à s'auto-coacher un peu mal.
Ah.
Et du coup.
Ça, c'est le manque d'expérience.
C'est le stress, quoi. Qu'elle ne le fait pas quand elle n'est pas en plein stress, justement, quand tout va bien. Par exemple, une fois qu'elle fait ça au premier tour, à la finale.
Ouais.
Le reste, elle déroule, elle écoute et elle enchaîne et c'est exceptionnel.
Ouais.
Premier tour et finale, elle a tendance à vouloir tout. C'est les deux tours les plus costauds. Et en fait, elle a tendance à dire tiens, je me sens pas bien aujourd'hui, alors que c'est une tuerie.
Ouais,
quoi. Je me sens pas bien à chaque compète. Tiens, j'ai une mauvaise sensation.
C'était un petit peu comme Marie-Jo Perret qui était jamais bien aux entraînements. Et puis, quand elle était dans le Starfleet.
On en a parlé souvent. En général, ça se traduit par faut que ce soit plus fort, alors qu'elle est déjà de très très loin la fille qui a la plus d'explosivité de la compète. Ouais. Et donc, elle veut faire encore plus fort, c'est déjà très très fort. Et en fait, il faudrait faire autre chose que plus fort. Il y a plein d'autres choses à faire mieux. Mm-hmm. Et donc, elle se concentre sur le mauvais sujet.
Justement, est-ce qu'il y a des sophrologues ou des coachs de plus en plus? Est-ce que tu en utilises? Et si oui, est-ce que c'est conseillé?
Alors oui, forcément, c'est conseillé, mais... Je ne respecte pas cette règle j'en prends pas. Mais
de gens du sport le font. Hein.
Mais c'est vrai que c'est nécessaire parfois.
Ouais.
Mais j'ai mon coach pour.
Les entraîneurs n'aiment pas trop.
Les entraîneurs n'aiment pas trop.
En fait, ça dépend des athlètes, quoi. Je pense que l'entraîneur,
j'essaie de trouver sa place. Faut que chacun trouve sa place, quoi.
Il faut. Ouais. Je peux pas parler au nom de tous les entraîneurs et au nom de voilà. Nous, on a plusieurs athlètes. On a d'autres athlètes effectivement au club qui sont parfois. Là, il y a le championnat d'Île-de-France qui vient d'avoir lieu. Et dans d'autres catégories un peu plus jeunes, on a 2 5e régionaux. Alors voilà, ce n'est pas première française, c'est 5e régionale. Mais en Île-de-France, c'est déjà très, très beau. Donc, on a des athlètes un peu moins de moindre envergure qu'Inès, mais qui sont quand même dans un parcours élitiste. Et je pense qu'il faut s'adapter à l'athlète. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui n'ont pas du tout besoin.
Oui.
Il y a des athlètes qui ont besoin, qu'on parle d'autre chose que du sportif.
C'est ça, c'est ce que je disais.
Inès... Pour moi, c'est pour ça que je fais un peu ce rôle aussi.
Oui, mais
elle a besoin, mais aussi c'est parce que c'est quelqu'un qui a une vie complètement, j'allais dire matrixée, mais parce que c'est forcément.
T'as quel âge t'as pas demandé.
J'ai 16 ans.
16 ans.
Vous imaginez après, comme je sais très bien que vous imaginez, oui, mais je veux dire, il faut se rendre compte que elle fait le monde entier. Elle va faire son 3e championnat d'Europe de suite, je crois. Enfin, voilà, donc forcément, c'est quelque chose qui est, comme je dis, matrixée, c'est-à-dire qu'elle est dans complètement les deux pieds, les deux mains dedans. Et donc forcément, Inès, et en plus de ça, c'est son tempérament, on ressent vraiment l'idée qu'il faut parler des choses et pas que sur l'aspect sportif. et que si elle se sent bien dans sa tête et dans son stress, et en fait, le karaté derrière, il déroule.
Oui, bien sûr.
J'allais aussi dire dans son club, parce qu'elle a changé 2 fois de club depuis qu'elle est petite.
Ah oui, donc, effectivement, il y en a eu des mercato.
Voilà, donc mais en fait, tout ça fait que quand elle est bien, en fait, le karaté derrière, c'est a priori le meilleur de France de sa catégorie. Ça fait 4 ans qu'elle n'a pas perdu.
D'accord.
Mais voilà, c'est ça l'enjeu. Et je crois que j'avais vu un reportage sur Teddy Riner la dernière fois. Il me semblait que dans son reportage, il ne parlait sur 40 minutes, je sais plus, je crois qu'il n'a jamais parlé de judo, je crois.
Ah oui, oui, oui.
Bah, il parlait de régime.
Non, et puis lui,
sa préparation, c'était d'être au poids et avec sa psychologue, d'être bien.
Oui, oui.
Et non, une fois qu'il était au poids, il était bien avec sa psy, en fait, il éclatait tout le monde. Et
lui, il suffit qu'il déconne, il est dans la compétition. C'est un peu ça, c'est sa façon de se préparer.
Voilà, donc évidemment, on fait beaucoup de karaté, elles entraînent 12 heures par semaine, mais l'enjeu principal, il est aussi sur tout le reste.
Bien
donc
sûr,
il faut un
intérêt
en 360.
Allez, on écoute un peu de musique, la première pause musicale.
Comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de traits qui piquent ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à 4 feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi, j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Biromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent, dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
Yeah. Voilà, émission que vous pourrez naturellement réécouter très rapidement en podcast, hein, comme toutes les émissions de cette émission Mon Paris Sport. Bonsoir Benoît, bonne année d'abord.
Bonsoir à tous, bonne année Philippe.
Donc exceptionnellement c'est le troisième lundi, donc c'est la rubrique MMA hein, qui passe traditionnellement tous les deuxièmes lundis. Mais ça tombe bien, on voulait te mettre avec la section karaté.
Super, hein, c'est super. Bon,
t'as écouté, ça a des points communs. Bah, c'est un sport de combat.
Clairement, c'est un sport de combat. Et mais on frappe. Il y a beaucoup. Il y a même une légende du MMA, Georges Saint-Pierre, qui a été karatéka.
D'accord.
Donc, oui, il y a beaucoup de points communs.
Est-ce que MMA, ça vous plaît quand même, non?
Oui, oui, bien sûr.
Oui, moi, tu regardes les combats?
Oui.
Ah oui, bah, c'est bien.
Tu regardes les combats de MMA, Inès? Je savais pas.
Ah, ouais, ouais.
Allez, allez. Ouais, alors moi, c'est marrant. Je regarde avec intérêt quand je tombe dessus, mais je ne vais pas le chercher naturellement. Je suis pas trop au courant de qui est quel champion. On m'a envoyé beaucoup Mashiba qui faisait du karaté, enfin qui fait du karaté, Mashiba. Mais je suis tellement plongé dans le karaté. Que...
Ouais, bien sûr.
Après. J'ai toujours du mal à en parler parce que pour moi, le karaté, c'est du MMA. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'appeler ça MMA. Que...
Ah.
Alors, on peut, voilà. On peut... Mais parce que le karaté que moi, je pratique, et en tant que prof, quoi, c'est pas le karaté de compétition. Parce que j'apprends... Mais c'est ce que font beaucoup de profs. C'est-à-dire le karaté traditionnel où on fait tout, etc. Mmh. Et en karaté, bah, y a du sol, il y a du contact, il y a même en l'air, il y a des sauts. Et alors évidemment, quand on fait que le karaté combat avec les gants, là, et que les compétiteurs ils voient les vidéos de karaté combat de compétition, bah, c'est tellement en fait une sorte de jeu. Ça, j'adore. Hein. Moi, je suis à toutes les compétitions combat. J'en ai 30 par an. Je suis à fond dedans. Il y a des sportifs combat. Elliot Avedian au club, notamment tête de proue des combattants du club. Bravo Elliot, qui est double champion de Paris en surclassé et dans sa catégorie d'âge. Eh bien, bon, voilà, le combat sportif, j'adore, etc. Mais le combat, c'est pas le combat sportif avec des gants. Le karaté, c'est-à-dire main ouverte. Voilà, et donc, enfin, le karaté ne veut pas dire que main ouverte. Hein, mais bon, on travaille main ouverte. Et globalement, quand on fait du combat sportif, on a des gants. Donc déjà, ça n'a aucun sens par rapport à ce que c'est le karaté traditionnellement. Quoi. Donc moi, le karaté que je pratique, bah, c'est du combat. Quoi. Et du combat sans règles, quasiment. Ouais. Donc c'est du MMA.
T'en dis quoi, Benoît?
Bah, en soi, je suis particulièrement d'accord avec lui parce que, grosso modo, le fait de mixer différents styles de combat, ça s'est toujours vu dans l'histoire. C'est juste, après, on y a mis un nom. On a appelé MMA tardivement. Mais il y avait déjà à plusieurs reprises des tentatives de mixer et surtout de faire en sorte que les styles de combat évoluent. Donc en soi, c'est normal, je suis parfaitement d'accord avec ce discours-là. C'est juste que voilà, nous, à notre époque, on appelle ça le MMA, mais je pense qu'à chaque époque, il y a toujours eu un style de combat qui s'est manifesté, qui a eu pour but d'apporter des éléments qui manquaient aux techniques de combat qui existaient précédemment. Donc non, moi, je suis pas du tout surpris par le propos, et au contraire, je le partage.
Alors quoi de neuf après donc, ta dernière intervention fin 2024? Il paraît qu'il y a eu un bisou qui a défrayé la chronique.
Bah alors pour revenir à l'événement du coup Hexagone dont tu parles, Hexagone 23 qui a eu lieu le 10 janvier aux Zénith de Paris, qui a été un très beau show à tous les niveaux, parce que avant le combat il y a eu beaucoup de spectacles, notamment de trash talking entre Christopher Odona qu'on salue d'ailleurs,
qu'on a invité deux fois
au Paris FM et qu'on salue encore aujourd'hui.
Il a gagné là.
Alors malheureusement défaite malheureusement, mais un très beau show. Il n'a pas démérité, il n'a franchement cette défaite, j'ai presque envie de dire que lui a redonné ses fleurs, parce qu'il faut savoir que Christopher Odena est un combattant de MMA âgé de 40 ans. Il a affronté un jeune rookie de Walitandia, qui est une très belle tête, qui est la tête montante actuellement du MMA français. Donc c'était un beau combat, parce qu'on attendait beaucoup, il y avait beaucoup d'enjeux. C'était les débuts de Walitandia en professionnel, et également Christopher Odena qui était clairement vu comme étant qui allait être le perdant du combat, mais au final ça s'est fait sur 3 rounds. Ça a été un bon combat, il y a eu beaucoup de tensions dans ce combat, et surtout que beaucoup de gens à la fin du combat se sont rendus compte que waouh, c'est impressionnant quand même, être âgé de 40 ans, arriver à faire une telle prestation face à un jeune de 22 ans, donc c'était impressionnant. Donc en tout cas voilà, certes une défaite pour Christopher Odena, on salue, bien évidemment on félicite Walitandia pour sa victoire et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Bon.
Il reviendra à ce micro quand même, Christophe.
Ah, clairement, ouais, j'espère hein pouvoir l'inviter à nouveau, comme d'habitude. Hein. Ouais. Sinon, bah, très belle soirée. On a eu une belle défense de ceinture par Mathieu Leto-Duclos, qui a conservé sa ceinture face au japonais Daichi Mikami. Très beau combat en 5 rounds, ça a été très compliqué, mais grosso modo, Mathieu Leto-Duclos est resté assez prudent. Il a assuré sa victoire. On a eu même l'occasion d'interview après le combat. Il nous a expliqué... Oui. Pourquoi sa stratégie, pourquoi il a choisi de ne pas forcément mettre KO son adversaire rapidement. ses raisons étaient parfaitement légitimes et on le salue pour ça, donc on le félicite à nouveau. On a eu également la victoire de Théo Ulrich, qui a mis son adversaire KO au deuxième round, si je ne dis plus de bêtises. Très beau combat, il a eu un très bon jab. On a également eu l'occasion de l'interviewer également, donc c'était une très très belle soirée, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup
et cette interview, on va la retrouver où?
Ah bah on peut la retrouver sur Instagram, sur l'Instagram de Mon Paris FM.
Vas-y,
sur mon Instagram également, Jibe Dope, Jibe tiré du 8, Dope ensuite. Ouais. Et franchement, ça a été une excellente soirée. Il faut savoir que Zénith de Paris, du coup, il y avait plus de 6000 spectateurs. C'était complet. Beaucoup de gens étaient là pour leurs combattants. Il y a eu même en début de carte, on a eu le combat à Paul Dena qui a eu une victoire, un jeune combattant aimant amateur et qui a eu beaucoup de followers et beaucoup de gens étaient là pour lui. Donc c'était une très belle carte. Franchement, c'était un très très bel événement. On a beaucoup apprécié. On était aux premières loges avec Suleiman, qu'on salue malheureusement qui n'est pas là. On sent qu'il y a un véritable engouement pour le MMA en France. Je le répéterai jamais assez, mais je pense que c'est clairement le sport montant actuellement et c'est vraiment un sport qui a de beaux jours devant lui en France, clairement. Oui.
Alors justement, on parlait du karaté. Est-ce que c'est finalement le MMA, c'est pas des gens qui viennent de tous les différents sports de combat?
Bah clairement, en fait, on a des combattants qui viennent de toutes les disciplines.
Oui.
Clairement, du karaté,
full contact.
Voilà, beaucoup de muay thai. Oui. Bon, en France. Après, je pense que là en ce moment, il y a une volonté de maîtriser d'autres styles de combat, notamment comme le grappling, la lutte, pour compléter un peu cette discipline du MMA. Mais sinon, si ça s'appelle MMA Mixed Martial Arts, pour une raison, c'est parce que justement, les gens viennent de tous les horizons et c'est ce qui fait la beauté de ce sport.
Mmh. Il y a d'autres événements qui se sont produits ou qui vont arriver.
Bien sûr, il y a eu un événement dimanche matin, pour nous les Français, c'était le soir aux États-Unis. Du coup, c'était la carte de l'UFC. Du coup, on a eu de très très beaux combats. On a une défense de ceinture de Islam Makhachev contre Moicano. Il faut savoir que Moicano, c'est un Brésilien qui a malheureusement battu notre combattant français.
Tiens, j'ai vu un très bon reportage sur le MMA dans le stade de hier. Je ne savais pas qu'au Brésil, on forme des très bons compétiteurs de MMA.
Alors le Brésil, est un pays du MMA. Oui, clairement, il y a énormément de combattants et de champions de MMA brésiliens. D'ailleurs, on a un coach français, Daniel Warin, que je salue parce que on a eu l'occasion de l'interviewer, de discuter avec lui. Lui a formé justement des champions de MMA de l'UFC, notamment Anderson Silva. Ça a été son coach et c'est l'un des plus grands combattants MMA. C'est un Hall of Fame encore aujourd'hui. Donc voilà pour dire que le Brésil, c'est une terre du MMA. On a des coachs français qui sont partis là-bas, qui ont coaché là-bas. Beaucoup de Français qui s'entraînent là-bas et en général, toutes les organisations françaises, on aperçoit toujours des combattants brésiliens. Brésilien est là en l'occurrence pour le main event qui a eu lieu hier soir, c'était du coup Islam Makhachev qui lui est russe contre Moicano qui est brésilien, Moicano qui avait battu notre combattant français Benoît Saint-Denis, et là cette fois-ci s'est incliné face à Islam Makhachev par soumission dès le premier round. Il faut dire que Islam Makhachev est un combattant clairement qui domine la catégorie, il est au-dessus de la catégorie. Moi personnellement je ne vois personne arriver à lui détrôner la ceinture. Donc bravo Islam Makhachev. Ensuite on a eu également en co-main event, on a eu l'affrontement Merab Dvasilvili, excusez-moi, contre Umar Nurmagomedov. Alors il faut savoir que Umar Nurmagomedov qui est dans l'équipe de Islam Makhachev, du coup le même coach, la même team. Il faut savoir que Umar Nurmagomedov, c'est le cousin de Khabib Nurmagomedov, une des légendes du MMA, et malheureusement il s'est incliné face à Merab qui clairement a gagné les trois derniers rounds. Ça a été un combat très très serré, c'était deux combattants qui avaient quasiment le même style de combat, donc tous les deux d'excellents lutteurs qui ont également un bon striking, ce qu'on appelle le striking, c'est-à-dire c'est le combat pied-point. Mais à la finale du combat, la stratégie de Merab a été aboutie que celle d'Umar, puisqu'il réussissait quand même à dominer son adversaire, à être beaucoup plus agressif. On sentait vers les deux derniers rounds que Umar était un peu fatigué, qu'il était fatigué, il n'arrivait plus à tenir le round, et à la fin, clairement la victoire par décision unanime pour Merab. Donc franchement, ça a été un très très beau show. On a hâte de voir la suite de l'UFC puisqu'on a un combattant français qui va bientôt combattre en février en Arabie Saoudite. Il s'agit de Nassourdine Imavov, et clairement qui va affronter l'un des anciens champions de la catégorie des lightweight, qui est Israel Adesanya. Donc c'est un combat qui clairement va être palpitant, puisque c'est Israel Adesanya, c'est l'une des légendes de sa catégorie. Il est encore il combat toujours, il est presque déjà considéré comme Hall of Fame déjà, donc c'est incroyable pour un parcours professionnel d'un sportif à ce niveau-là. Et là, on a notre Français Nassourdine qui va l'affronter, et on espère qu'il va gagner.
D'accord. Donc tous ces combats-là, on peut les suivre sur une chaîne comme
alors,
RMC, je crois.
Alors, tous ces combats-là, effectivement, on peut les suivre sur RMC. RMC qui diffuse tout ça. C'est très compliqué d'avoir, mais Dieu merci, on a RMC, donc ouais, c'est super, qui nous permet de voir ces combats-là. Il faut juste se lever tôt, à 4h du matin, les amis.
Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est tout.
Voilà, c'est tout pour bah, et on a hâte de voir.
Donc le 10 février pour un autre point.
Exactement, le 10 février, on a hâte de vous parler de MMA.
Très bien. Est-ce que au karaté, on fait des stages pour aller au Japon, par exemple? Ça vous est arrivé, votre club?
Alors moi, non, pas du tout. Une fois, je devais aller au Japon et j'avais mon passeport périmé.
Faute professionnelle.
Pas aller au Japon, ouais, absolument. Ouais. À cette époque-là, je n'accompagnais pas des mineurs au stage pour des stages de préparation. Donc, heureusement, j'ai laissé personne sur le carreau. Mais par contre, je devais aller au mariage de mon meilleur pote. Oui. Donc, il s'est marié sans moi.
Oui.
Non, parce que témoin quand même.
Oui. Hein, mais... Non, ah ouais, en plus, oui. Ouais, ouais. Oui. Non, parce que on parlait justement des Français qui vont donc au Brésil pour le MMA. On sait que
non, mais c'est clair, ça se fait. Après,
il y a des judokas ou des karatékas qui vont au
Ça se fait. D'ailleurs, je pense
qu'Inès
y a déjà réfléchi. Alors, mais après, il n'y a pas besoin. Comme le karaté, c'est beaucoup démocratisé. Alors, il y a quand même une grande domination japonaise. Il y a quand même un intermédiaire qui est pas aussi compliqué que le Japon. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui font des stages en Espagne. Parce qu'il y a la championne olympique Sandra Sanchez, qui fait des stages et invite des gens près de Madrid.
Oui, non seulement en Espagne, hein, en Belgique aussi.
Oui, en plus, effectivement, elle fait le tour. Elle fait beaucoup de stages à Madrid et il faudrait qu'elle fait le tour parfois dans d'autres endroits européens où elle propose des stages. Et donc, pour les Européens, il y a beaucoup d'athlètes et de coachs qui trouvent un moyen d'aller faire un stage avec cette championne olympique qui a battu les Japonais, Japonaises. Voilà. Et d'ailleurs, Inès m'a déjà demandé d'aller faire un petit stage.
Oui, j'y suis déjà allée d'ailleurs.
Oui, voilà.
Ouais. Et alors ?
C'était incroyable. J'ai pleuré, mais tout seul, mais c'était incroyable. Ouais.
Les écoles, ils viennent dans vos séances ? Les différents collèges, les lycées, est-ce que vous avez eu des écoles qui sont venues vous voir, ou est-ce que vous êtes allé au sein des écoles montrer un petit peu les cours de karaté?
Il y a une école dans le 5e qui nous a demandé de faire une initiation pour leur classe, c'était en maternelle, donc vraiment des tout petits, quoi. Donc j'ai fait l'initiation là-bas. Et sinon, une fois, il y a eu un sujet avec peut-être un partenariat avec une école, effectivement, etc. Mais avec l'arbalète, mais ça n'a pas donné suite. En fait, il n'y a pas besoin parce que les écoles. En fait, les gens viennent déjà chez nous.
Ouais,
Alors, ça pourrait, si, dans des quartiers où on est beaucoup moins influent. Alors là, on a des cours dans le 11e. Oui, effectivement, dans le 11e, on n'est pas du tout. On a une heure par-ci, par-là, c'est tout. Mais dans le 5e, là où on a la majorité des cours, les jeunes, ils sont déjà chez nous. Ouais. Donc,
si je comprends bien, c'est pas possible de vous rejoindre, même maintenant.
Alors, c'est possible de nous joindre, absolument. Oui. C'est possible de nous joindre parce que c'est quand même des cours collectifs et qu'il y a quand même beaucoup de cours qui ne sont pas complets. Il y a des cours complets, bien sûr, mais on se structure comme un gros club parce qu'on essaie de soutenir les athlètes de haut niveau, d'avoir une sorte de club avec beaucoup de professeurs, kata, combat, loisirs, seniors, babies. Et donc, pour toutes les sections et pour aussi accompagner les athlètes comme Inès dans le parcours mondial, il faut de l'argent, tout simplement. Mmh. Et donc, il faut aussi payer des profs, des salariés.
Combien de profs vous avez, je dis ?
En karaté, on a peut-être 6 ou 7 profs.
Oui, puis il faut savoir que c'est des métiers, comme beaucoup, qui sont pourvoyeurs d'emploi.
Tant qu'il y a de l'argent, par contre.
On peut vivre de sport grâce au diplôme qu'on passe et qu'on obtient.
Absolument, tant que le club est grand.
Oui, parce que oui, si forcément, on a aussi l'aide de l'équipe de France pour nous soutenir dans nos déplacements internationaux. Donc,
Merci l'équipe de France.
Ouais, c'est ça, malheureusement.
Et l'Agence nationale du sport.
Et les rapports sont bons entre vous et les membres de l'équipe de France. Vous travaillez en harmonie.
Ah bah oui, il y a le Inès, ça vient de faire 4 stages équipe de France pour sa préparation au championnat d'Europe. Et donc elle vient de faire 2 stages en décembre, 2 stages en janvier et février. Donc encore une fois, l'équipe de France l'a soutenue, puisqu'elle a sélectionné le championnat d'Europe.
Oui, oui, oui.
Du coup, l'équipe de France l'a soutenue financièrement aussi pour toutes ces Youth League.
C'est bien. Oui, parce que des fois, elle pourrait dire que c'est à la charge du club.
Ah bah, ça reste à la charge du club. Ouais, hein, mais voilà. C'est-à-dire que c'est une partie, quoi. Mais c'est déjà une partie très précieuse.
Oui.
Donc merci au staff. Et bah oui, bah après, c'est moi en stage équipe de France, j'y suis pas. Hein. Moi, c'est...
Oui, non, mais bon, est-ce que des fois vous travaillez entre vous
Ah oui, par contre, il y a des briefings. Ouais.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des sports où on demande effectivement comment on trouve l'athlète sur l'instant, quand l'équipe de France la récupère.
Ah oui, bah tout à fait, il y a des va-et-vient avec le staff, et surtout Lucas Jeannot qu'on salue. Salut Lucas. Et Lucas est super, puisque déjà, il parle beaucoup avec Inès. Il fait aussi le travail. Inhérent à sa fonction, parce que c'est des mineurs quand ils sont en internat, ils sont en internat et forcément ils sont en internat quoi. Donc lui il a les cours à travailler, mais après il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se lève, il faut que je l'aille dans le bus.
Les rapports sont bons entre
vous, ils sont très
bons. Filles, parce que c'est un sport individuel quand même, hein.
Ah oui, forcément il y a une certaine rivalité
avec
les filles.
Mais on arrive quand même à.
Mais on a certaines règles, comme quoi il faut être une équipe soudée, quoi, l'équipe de France, et avoir une certaine cohésion. Ah donc forcément, on ne s'ignore pas, on n'est pas de super copines, mais on se dit bonjour.
Il
hein,
y a de la concurrence, et puis en même temps, il faut vivre ensemble pendant une certaine période. Hein.
Oui, oui, bien sûr, forcément il y a une rivalité, mais il y a des règles posées, il faut se respecter, etc.
Et dans le club, ça va ?
Oui, forcément, ça se passe. Très très bien.
T'es une icône alors, ça va.
Oui, ça va. Ouais.
C'est combien le prix d'une licence pour le karaté
Chez nous, c'est 440.
440 pour l'année. Ouais. Bon, c'est juste un kimono donc.
Après, oui. Oui, bah, pour beaucoup de gens, je pense en France, etc., c'est un prix assez cher. Mais on est à Paris Centre, donc forcément, par rapport à Paris Centre, ça paraît un prix plus dans le marché. Par rapport à jouer à des clubs qui ne sont pas à Paris, ça paraît très cher. Moi j'ai deux manières de visualiser le prix. Je me mets à la place d'une famille, c'est assez cher, mais par rapport à c'est assez cher. Je me mets à la place de ce que ça revient par heure, c'est extrêmement peu cher. Mais c'est le métier qui veut ça, je me plains pas, mais à la fin il faut quand même savoir que c'est un marché étrange où on vend bien sûr s'il s'agit de ça, puisque à la fin c'est quand même un service payant. On vend des cours d'un certain niveau d'expertise quand même, qui sont là en l'occurrence moi j'ai fait ça toute ma vie, etc. Puis les autres profs, il y a un prof qui est vice-champion d'Europe, enfin Michael Serfati, salut Michael, etc. Et on vend des choses qui à la fin, alors c'est illimité en fait, l'offre de cours elle est illimitée, mais si on vient souvent ça revient à 5 euros le cours d'une heure et demie parfois au fil de l'année. Et donc en fait on à la fois c'est assez cher mine de rien, c'est une famille de 3 enfants, déboursé 440 etc. À la fois on est quand même dans un marché où en fait on vend de la quasi gratuité et enfin j'exagère hein, mais quasiment.
Ça peut être dégressif aussi sur les familles
Alors ceux qui font un cours par semaine juste pile poil ça, et qui en plus sont absents de temps en temps, mine de rien, ils payent leurs cours à 12 euros de l'heure. Mais ceux qui viennent, il y en a quand même beaucoup au club qui viennent 2-3 fois par semaine. En fait, c'est quasiment gratuit de venir en cours. Donc, c'est bizarre parce qu'à la fois, c'est quand même cher au début de l'année. À la fois, c'est quasiment gratuit. Et nous, c'est difficile pour les clubs du coup, parce que nous... et pourtant, on est un des clubs les plus chers de France, parce qu'à Paris, les prix d'inscription sont chers.
Puis je crois que vous payez les salles, alors. C'est
difficile. Oui, exactement, plus,
Tous les sports le font. Hein. Ouais.
Et donc, c'est très étrange. Et moi, si je peux faire passer un message d'ailleurs, même si je sais que c'est dur à entendre, etc. Mais je crois que le président de la Fédé de judo l'avait dit, monsieur Nomis, parce que le judo, en moyenne, est moins cher que le karaté, un petit peu.
Il y a peut-être plus de pratiquants aussi.
Exactement. Mais le président de la fédération de judo avait dit, et je rejoins ce discours, même si je sais que c'est dur à entendre, pour le bien de tout le monde et du sport en France, ça serait bien que le sport se vende un peu plus cher. Alors, je sais que mais il faut entendre que en fait on vend quelque chose qui coûte quasiment rien par heure de cours. Et pourtant, il y a des profs, il y a des emplois, il y a des... Et donc forcément, voilà. Donc j'ai pas la solution, hein, parce que je me mets à la place d'une famille. Je me dis, bah, si elle paye 700 euros l'inscription, 700 euros, elle va dire, mais moi, je suis plus d'accord, quoi. Mais sauf qu'à la fin... À la fin, quand ils achètent du poisson, ça coûte cher, le poisson. Quoi. Enfin, quand ils achètent quoi que ce soit, ça coûte cher. Donc, alors, en fait, il y a deux solutions. Soit il faudrait, si j'imagine un monde idéal pour les clubs, faudrait que ça coûte plus cher pour les familles, ou alors faudrait qu'il y ait beaucoup plus de subventions. Comme le ticket de métro, par exemple, la famille, elle ne coûte pas le prix réel. Elle paye.
Mais voilà. Comme il va y avoir moins 33% du budget
tout à fait.
Sur le sport français, c'est mal barré. Hein.
Mais tout à fait. Donc, je n'ai pas la solution, mais en tout cas, il y a un truc un peu étrange où soit il faudrait que ce soit beaucoup plus subventionné, selon moi, soit, même si je remercie déjà les quelques subventions qu'on obtient, merci beaucoup, mais ça, pour moi, il me semblerait que ça devrait être d'une toute autre nature. Voilà.
Alors, avant de partir sur la deuxième pause musicale, donc. Si on veut venir vous rejoindre, on s'inscrit comment par le biais de votre site internet.
Oui, il y a l'inscription en ligne, on est moderne.
Oui. Puis on vous répondra où vous présenter, sur quel site.
J'arrive pas toujours, mais j'essaye de ne jamais répondre quand on m'appelle. Est-ce que vous pouvez aller sur le site internet? J'essaie de ne pas le dire, mais en vrai, oui, on peut faire des inscriptions.
Moi, quand j'ai appelé, vous m'avez répondu, mais c'était pour l'émission.
Non, mais en vérité, oui, il n'y a pas d'inscription. Enfin, les inscriptions se font en ligne. Après, on fait des cours d'essai au dojo et ça se passe en général très bien. Ouais, c'est ça. On peut le faire en cours d'année, etc.
La deuxième pause musicale, peut-être avec. Je vois pas notre ami. Ah, si, on y va. La deuxième pause musicale. Allez, on y va. C'est parti.
Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville.
Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime.
Besoin de rien.
Comme jamais envie de personne.
Voilà, bah, je sais qu'on a bien dansé dans les studios. On va parler maintenant eh bien, du journal des sports, hein, un abondant journal des sports. Alors, l'événement de la semaine, ça a été naturellement l'arrivée de Charlie Dalin pour le Vendée. On connaît les trois premiers donc, de cette édition 2025. Alexandre.
Absolument, Philippe. Donc, 10e édition. Charlie Dalin, leader presque toute, pendant toute la course. Il a terminé premier. Il a eu besoin de 64 jours, 19h et 22 minutes et 49 secondes exactement pour franchir la ligne d'arrivée.
Tu sais quel était le précédent recordman ?
Absolument, c'était Armel Leclerc,
celui qui a fait le Bélin.
Avec la femme. 74 jours, il a eu besoin.
Donc, c'est dire qu'il y a eu presque 10 jours de moins. C'est phénoménal. Et les trois premiers ont battu le record.
Exactement. Donc, le deuxième, Johan Richomme, et le troisième, Sébastien Simon. Les trois ont battu le record. Il faut souligner également que sur 40 skippers, on a eu seulement 6 abandons, donc ça va, c'est déjà mieux que les éditions précédentes. Et c'est pas totalement fini, puisque là, il reste quand même une vingtaine, voire une trentaine de bateaux.
Ah, les derniers vont arriver dans un mois et demi. Hein.
Voilà, donc on leur souhaite du courage. Il y en a, j'ai vu, ils sont en dépression, ils ont envie que ça s'arrête, etc. Donc c'est compliqué. Donc il y a aussi l'arrivée du rallye, Philippe.
Oui, alors le Dakar aussi.
Le Dakar 2025.
Avec aussi donc, un événement, puisque c'est un Saoudien qui a remporté l'épreuve auto.
Absolument, Yazid Al-Raji et son copilote Timo Gottschalk qui remportent la course. En moto, c'est l'Australien Daniel Saunders.
Oui, alors je voulais faire un petit rectificatif parce qu'il y a eu une désinformation la semaine dernière, on s'en excuse. Hein. On n'a pas relevé Van Beveren, il est bien français, hein. Il n'est pas hollandais, il n'est pas belge.
Hein. Oui, voilà. Oui, il
fallait rectifier. Ça nous a échappé.
Ok. Ouais. En moto, ouais. Donc
français, troisième, hein, Van Beveren.
Ouais, troisième. Oui. En moto, c'est l'Australien Daniel Saunders. En camion, c'est le trio tchèque Martin Machik, František Tomášek et David Svanda. Et en challengers, deux Argentins, Nicola Cavigliasso, pardon, Valentina Pertergarini. Et en SSV, deux Américains, Brock Eger et Max Eddy.
Ouais. En tout cas, belle édition. En tout cas,
très belle édition. Sébastien Loeb, malheureusement, c'était pas trop ça cette année.
Ça lui va pas le Dakar. Il réussit pas.
Ça lui va pas. Ouais.
Allez, on va au ski maintenant. Hein.
Ski alpin, puis, ça va faire plaisir à Vanessa.
Beau week-end aussi. Hein.
Absolument. Ouais. Donc, chez les femmes, c'est l'Italienne Federica Brignone qui, avec un temps de 1 minute 21 secondes et 64 centièmes, qui remporte l'épreuve à Cortina d'Ampezzo. Les Suisses Gudberami et Sutter finissent sur le podium. Chez les hommes, le Norvégien McGrath remporte la course à Wengen avec un temps de 1 minute 45 et 94 centièmes. Podium 100% norvégien puisque ce sont Hogan et Christoffersen qui terminent 2e et 3e. En biathlon, à Ruhpolding en Allemagne, victoire de l'Italien Giacomel en 36 minutes et 21 secondes. Les Norvégiens Lagred et Bo terminent sur le podium. Et chez les femmes, la Suédoise Aubert gagne l'épreuve en 33 minutes pile. L'Allemande Preuss est deuxième et la Française Jeanne Richard est troisième.
D'accord. Et Alexandre, il y a eu une grande annonce là, ce week-end, puisque Beau a annoncé qu'il allait prendre sa retraite.
Absolument.
En créant beaucoup d'émotions. Ouais.
Voilà. Un an avant les Jeux, c'est bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Bon, il n'y a plus de Français et de Françaises à Melbourne, j'allais dire comme d'habitude, bien que mon fils est allé en quart de finale quand même. Hein.
Comme d'habitude, mais malheureusement, il a été touché physiquement ce matin. Du coup, il a été contraint d'abandonner contre l'Américain Ben Shelton. On aura malgré tout de belles affiches en quart de finale. Sinner de Minor, Shelton Sonego, Tommy Paul Zverev et surtout un très beau Djokovic Alcaraz. Donc on aura hâte de le suivre. Et chez les femmes, pareil, depuis l'élimination de Gracheva en 32e de finale, plus de françaises. On va suivre aussi l'américaine Coco Gauff qui s'est qualifiée pour les huitièmes, pour les quarts de finale.
Oui. Allez, le rugby maintenant, ça s'est plutôt bien passé pour nos clubs.
Bien passé, mais pas pour les clubs franciliens, mais on verra
mais
ça tout
autres,
à l'heure. Le Stade français, justement, qui s'incline lourdement 48-7 contre les Bulls. Clermont gagne 33-26 contre Bristol. Benetton gagne contre le Stade Rochelet 32-25. Le Racing 92 gagne contre les Stormers 31-22. Toulon perd contre Sale Sharks 33-7. Bordeaux-Bègles s'impose largement contre les Sharks 66-12. Castres Olympique gagne contre Saracens 32-24 et le Stade toulousain pulvérise Leicester 92. Là, c'était un très très gros match. Et du coup, on connaît désormais les qualifiés pour les huitièmes de finale. 6 clubs français sur 8, Bordeaux-Bègles, le Stade toulousain, le Stade Rochelet, Castres Olympique, le RC Toulon et l'ASM Clermont. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, pas de club francilien. Le Stade français qui traverse une saison très compliquée, qui finit 6e de sa poule et dernier. Et le Racing 92, 5e, qui est reversé directement donc en Challenge Cup.
Oui. Et puis, on passe maintenant au handball. Est-ce que l'équipe de France, pour l'instant, a très bien commencé?
Très bien commencé les préliminaires du mondial. 3 matchs, 3 victoires. 37-19 contre le Qatar, 43-19 contre le Koweït et 35-27 contre l'Autriche. Maintenant, on va passer chez les femmes, puisqu'il y avait de la Ligue des Champions féminines en handball. Donc, Brest-Bretagne jouait la Ligue des Champions. Elles l'ont remporté par forfait 10-0. Les Bretonnes sont quatrièmes du classement. Metz a gagné 26-23 contre Ferencvaros. Le club messin est premier de son groupe. Et plus tôt dans la semaine, il y avait la 10e journée de championnat féminin. Et le Paris 92 a perdu contre Dijon 29-17. Le club francilien est 8e au classement. Maintenant, on passe au basket.
Ça va mieux pour le basket. Ça va mieux pour le Paris Basket.
Ça va un peu mieux
deux victoires en Coupe d'Europe cette semaine.
Deux victoires en Coupe d'Europe. Une contre le Maccabi Tel Aviv, 96-83. Et 88-84 contre Anadolu Efes.
Ouais, t'étais au match.
Et évidemment, donc retour à l'Adidas Arena pour le Paris Basketball. Avec une très, très, très grosse ambiance, comme d'habitude. Mais donc là, il y avait 6650 fans. Et puis, ça a été un match quand même très serré. Au début, domination donc, de Paris. Après, ça a été beaucoup plus serré. Un match très intense aussi, hein, selon Thiago Splitter. Et donc, je vais poser la question aussi de savoir quel avait été l'état d'esprit hein, avant le début du match. Il revenait quand même, hein, notamment en Euroleague, hein, de l'étoile
sur
rouge Belgrade.
Ouais. La petite phase un peu moins bien quand même.
Voilà, mais pour eux, justement, après ce match difficile notamment, c'était un plaisir hein, de retrouver leur famille, de retourner dans leur stade, d'être devant leur public. Et ils ont quand même réussi à dominer au final avec, en étant plus agressifs sur certains aspects, sauf peut-être sur les rebonds, mais en jouant beaucoup sur le turnover et sur d'autres aspects. Ouais. Avec beaucoup de choses positives.
Ouais. Et surtout, l'essentiel, c'est d'avoir gagné.
Et l'essentiel, c'est d'avoir gagné, et rapidement aussi. Hein. Ouais. J'ai posé une question à Luca Bianchi, donc le coach de l'équipe turque. Et pour lui, pour le prochain match, ce sera vraiment très différent parce qu'ils rencontreront Barcelone. Et il a aussi souligné hein, que Paris est une équipe quand même assez spéciale, assez unique hein, en son genre. Et le but pour eux, ça va être donc de s'adapter à cette équipe en répondant comme une équipe en atteignant leur objectif.
D'accord.
Voilà.
Allez,
au classement justement. Ouais. Donc les Parisiens sont 3e juste devant Monaco, mais derrière l'Olympiakos et Fenerbahçe. Lyon-Villeurbanne est 13e. On joue également la 16e journée de championnat ce week-end. Et justement, le Paris Basket a gagné 90-73 à La Rochelle. Et Nanterre a perdu contre Le Mans 85-67. Au classement, Paris est 3e derrière Cholet et Lyon-Villeurbanne. C'est étonnant parce que Lyon-Villeurbanne joue très bien au championnat, mais en Euroleague, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est comme le PSG au foot.
C'est comme le PSG.
On va en parler, Stéphane.
On va en parler. Ouais. Et Nanterre est toujours 12e. Ouais. On termine ce journal d'espoir, Philippe, avec le volleyball et la 17e journée de Marmara Spike League. Paris a remporté son match du week-end 3-0 contre Montpellier et le Plessis Robinson n'a pas joué. Du coup, au classement, le Plessis est toujours dernier et Paris est passé 8e. Et chez les femmes, le Levallois-Paris a gagné 3-0 contre Vendeuve-Nancy, gros match. Et le club des Hauts-de-Seine est 4e au classement derrière Nantes, Vendeuve-Nancy justement et le Pays d'Aix-Venel.
Très bien pour ce journal des sports, très très complet. Justement,
merci,
on enchaîne
Alexandre.
Avec notre ami Stéphane Dezenclos. Stéphane, bonjour.
Oui, bonsoir Philippe.
Ouais, ça va ? Ouais. Pleine forme. On va revenir un petit peu quand même sur cette semaine de Coupe de France, Stéphane, où la hiérarchie a été encore quand même bousculée, hein, puisque Lyon a été battu, éliminé 2-2, 4-2 au tir au but. Rennes est tombé aussi face à 3, 1-0. Bah, il y a eu quand même quelques dégâts pour les clubs de Ligue 1.
Ouais, il y a eu quelques dégâts. Il y a eu aussi. Ouais, il y a eu aussi. Ouais, il y a aussi quand Marseille qui a perdu.
Oui, alors ça, c'était les matchs de Ligue 1, entre clubs de Ligue 1.
Non, en coupe, contre Lille, en coupe.
Oui, bah Marseille, c'était les matchs de Ligue 1, ça, entre clubs de Ligue 1, en Coupe de France, un partout. Non,
Je réagissais quand tu dis la hiérarchie n'a pas été restée.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des clubs inférieurs qui ont battu les clubs de Ligue 1. Voilà.
Elle a quand même été bousculée même dans ce match-là. Mais c'est vrai que l'exploit le plus incroyable, quand même, c'est effectivement celui de Bourgoin-Jallieu, club de National 3, contre Lyon. C'est un peu une humiliation. Lyon qui ne va pas très bien. Quoi. Donc, voilà. Après, il y a des belles histoires aussi. Il y a l'équipe de Dives Cabourg qui a effectivement uniquement battu un club de National 2, hein, qui était. Mais quand même, pour eux, c'est un énorme exploit. C'est déjà leur première participation à un 16e de finale. Et tu sens vraiment, dans cette équipe, les purs, purs amateurs. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est rare. D'avoir des équipes de plus petit niveau à ce stade, il y en a.
Oui.
Mais alors, des équipes qui respirent autant le foot amateur que ça, c'est déjà plus rare.
Oui, je crois qu'on a battu un record. Je crois que c'est la première fois, effectivement, depuis 2020, qu'il y a autant de clubs amateurs au stade des huitièmes de finale. Parce qu'on parlait des clubs de Ligue 1, entre matchs de clubs de Ligue 1, effectivement, on a vu que Reims a battu Monaco. Hein. C'était 1-1 et 3-1 au tir au but. On en parlait, donc Lille a été plus réaliste en allant s'imposer à Marseille 1-1. 4-3 au tir au but. Et puis, on n'oubliera pas aussi la victoire de Brest devant Nantes 2-1. Et puis, parmi les clubs un petit peu où la hiérarchie a été bousculée, bah, c'était Cannes qui bat Lorient 2-1. Et puis, Saint-Brieuc qui a fait tomber aussi un des bons clubs de Ligue 2, Annecy, 1-1 et 4-3 au tir au but.
Voilà, tout à fait, voilà.
Mais, et c'est passé ric-rac pour Strasbourg et pour le PSG. Hein, vainqueur voilà, 4-2 quand même. Hein.
Ouais. Bon, pour Strasbourg, c'était quand même des conditions de jeu, oui. Enfin, dans les deux cas, dans les conditions de jeu très difficiles. Maintenant, avec du brouillard, du froid, terrain moyen. Bon, maintenant, le Paris Saint-Germain n'a pas été non plus très aidé par le terrain, mais bon, c'est vrai que ça a été un énorme match de cette équipe d'Espagne là, qui a réussi à pratiquement obtenir l'incroyable exploit. Donc c'est vrai que c'était plaisant à regarder. C'est vrai que c'est cette Coupe de France, maintenant qu'il n'y a plus en plus depuis quelques années où il n'y a plus la prolongation, ouais. Ouais, ça rebat un peu les cartes parce que quand on a regardé le match Espagne, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, hein, Espagne Paris Saint-Germain, ils ont craqué dans les 10 dernières minutes. Alors on peut penser que s'il y avait eu une prolongation derrière, ils auraient peut-être aussi craqué, mais c'est clair que ça change un peu la donne, quoi, parce que ça change forcément un peu la donne. Mais tant mieux, oui. Parce que on vit des matchs incroyables, quoi.
Oui, alors justement, il y a 8 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 1 club de National, 2 clubs de National 2 et 2 clubs de National 3 actuellement, donc de qualifier pour les 8e en attendant le dernier match qui sera joué donc mercredi. Alors justement, on a tiré au sort, il n'y aura pas de très très grosses affiches donc en 8e. Le seul match de Ligue 1, ça sera un Strasbourg-Angers. Sinon, on aura un Le Mans-PSG ou un 3-Brest notamment à suivre.
Voilà, tout à fait.
Et Toulouse-Guingamp.
Voilà, on voit surtout que il y a quasiment plus de grosses équipes, hein, je crois que dans les 6 ou 7 premiers, quoi, il y a Nice, quoi, qui est encore là. Sinon Lille, ils sont il y a Lille, bien sûr,
oui,
il y a plus l'OM,
il y a plus Monaco. Ah ouais.
C'est quand même 3 grosses équipes, 3 potentiels à cœur. Alors c'est toujours intéressant de le dire. J'ai vu dernièrement j'ai lu une interview de Sidney Govou dans Le Progrès, et qui lui en a passé une bonne couche. En général, c'est pas un pro Pierre Sage ni un pro Textor, et qui a dit notamment c'est pas le Paris Saint-Germain et le Qatar du Paris Saint-Germain, le Qatar qui a battu Lyon en Coupe de France, c'est Bourgoin-Jallieu, quoi. Ouais. Parce que c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que tous ces clubs que je viens de citer là, par exemple, même si on peut mettre un degré un peu moins quand même Marseille, quoi, et encore ils étaient quand même à domicile, quoi, sinon même pas, et ils se plaignent toujours, il n'y a plus de titre à gagner. Nous, on avait un ami supporter Saint-Etienne qui disait maintenant de toute façon il n'y a plus aucun titre à gagner, on se bat pour la deuxième place et puis pour il n'y a plus rien à gagner. Et puis finalement, bah, là ils y sont pour rien, quoi. C'est pas c'est Reims qui a battu Monaco, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est Lille qui est venu gagner, quoi, se qualifier au Vélodrome et non pas le Qatar, c'est Bourgoin-Jallieu qui a battu Lyon, c'est assez terrible, quoi, en fait. C'est que ils n'arrivent même plus à saisir leur chance. On avait vu, oui, ça il y a 2 ans ou 3 ans, hein, quand l'OM par contre avait battu le Paris Saint-Germain et s'était fait battre, oui, le tour d'après. Tour d'après. Ouais, oui. 2, quoi, voilà.
Ouais, c'est ça. Allez, en Ligue 1, bah, Paris Saint-Germain a creusé encore un peu plus l'écart. Hein. Paris qui souffle, mais Paris qui s'impose à chaque fois, donc en ayant été gagné à Lens 2-1. D'autant plus que Monaco, bah, a continué sa mauvaise passe, hein, battu à Montpellier 2-1. Lille va bien, toujours invaincu après 21 matchs. Ils ont battu Nice 2-1. On va aussi noter la victoire de Brest à Rennes 2-1. Le nul, là aussi, c'est un nouvel échec pour les Lyonnais. Le nul à domicile devant Toulouse 0-0. Et puis dans les matchs entre équipes mal classées, on va quand même même rappeler le nul entre Saint-Étienne et Nantes, un partout. Reims, Le Havre, un partout. Et puis Marseille qui a aussi perdu des points une nouvelle fois à domicile contre Strasbourg, un partout. À noter donc aussi la victoire de Angers devant Auxerre 2-0. Ce qui fait qu'il y a 9 points d'avance maintenant, Stéphane, pour le PSG. 46 points devant Marseille, deuxième, 37. Troisième Lille qui passe à la troisième place, donc avec 32 points. Devant Monaco, quatrième, 31. Cinquième Nice, 30. Et sixième Lyon, 29. Et en bas de classement, il y a un petit trou quand même, puisque Le Havre est 17e avec 13 points et Montpellier 18e, 12 points. Mais auparavant, il y a 3 équipes dans un mouchoir de poche, Rennes, Nantes et Saint-Étienne avec 17 points.
Ouais, tout à fait. Non, mais encore une fois, bon, ça illustre pour le haut du tableau, ça illustre quand même un petit peu ce que je disais, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu agacé. On peut dénoncer effectivement, et à juste titre peut-être, le pouvoir financier d'un pays comme le Qatar qui est le propriétaire du PSG. Mais bon, Marseille, ils sont à 9 points. Oui. Ils ont perdu chez eux contre Auxerre. Ils ont fait match nul chez eux contre Angers. Ils ont fait match nul chez eux contre Strasbourg. Wow, je ne sais même pas s'ils n'ont pas perdu.
Non, Strasbourg, ils ont fait match. Ouais, bah, on sait que c'est une équipe qui tourne mieux à l'extérieur qu'à domicile cette année.
Bah hein. Oui, donc c'est-à-dire quand tu perds encore, ce n'est pas contre sur le papier en tout cas, des grosses équipes. Hein, c'est des équipes de deuxième partie de tableau, quoi. Hein, tout, ce que je te dis. Donc quand tu perds des points comme ça et tout, après, tu ne peux pas dire oui, mais on n'y arrive pas parce que machin. Monaco, c'est pareil. Monaco, on vous aurait dit, Philippe, quoi, moi, je sais que le Paris Saint-Germain était favori, mais on nous aurait dit au mois de septembre dernier, à la fin des matchs allés, il y a eu un match retour de jouer, mais à la fin des matchs allés, il y aurait 12 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur Monaco. Aurait été scié. Oui, on aurait dit c'est quand même un peu une faute prochaine. Alors, l'OM s'accroche effectivement avec 9 points, mais alors derrière, c'est quand même un peu. Et ce n'est pas des points perdus. Contre le Paris Saint-Germain uniquement ou contre des grosses équipes, quoi. C'est aussi des points contre des petites équipes, quoi. Donc c'est assez incroyable. Mais moi je voudrais juste je vais perturber un peu ton truc, je voulais juste faire
On a jusqu'à 27 Stéphane, hein.
Ah ouais. Oui. On a le temps alors.
Bah encore 6 minutes, donc si on arrive à tout brosser.
Non, mais je voulais juste passer quand même un grand coup de chapeau à saluer Kylian Mbappé avec nous, que ça soit sur le site ou dans le journal.
Ça m'étonne pas, il est remis en forme.
On a toujours, on l'avait déjà dit avant, on a toujours défendu, qui est salué maintenant là. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui les unes de Marca, des journaux espagnols. Ils sont à genoux devant Kylian Mbappé, qui a eu son 6e ou 7e nomination de joueur du match hier, qui est le deuxième meilleur buteur du club derrière Lewandowski avec 12 buts réalisés. Et voilà, et donc c'est un petit message à ceux qui disaient. Qu'on connaît, certains on les connaît tous les deux, qui disaient qui sont des gens bien pourtant, qui disaient je me demande même s'il sera titulaire au Real Madrid, je me demande même si il a sa place là-bas et ceci et cela. Bah voilà, là il est en train de mettre tout le monde d'accord, et c'est voilà, donc je tirais quand même un gros coup de chapeau à ce joueur qui est extraordinaire, qu'on ose sur lequel on ose cracher en France parce qu'on préfère les poulies d'or ou les deuxièmes, quoi.
Eh oui, on a connu une époque où on avait bien sifflé Platini au Parc des Princes, ce qui était inconcevable.
Voilà, on a vu Messi se faire siffler au Parc des Princes. Hein,
bien sûr. Allez,
quand on a vu ça. Ouais. Hein.
La Ligue 2, donc très brièvement, Lorient qui est allé gagner à Dunkerque 1-0 et Metz qui bat le Paris FC 3-1. C'était les deux matchs les plus importants de cette 19e journée. On va quand même rappeler que Pau a battu aussi le Red Star 3-1. Victoire d'Ajaccio devant Caen 2-1 et Guingamp qui bat Rodez 3-0. Donc là aussi, c'est très serré. Hein. Lorient en tête avec 37 points devant Metz, deuxième 34 points. Troisième Paris FC qui serait barragiste, donc si le championnat s'arrêtait là, avec 34 points. Quatrième Dunkerque, 33. Cinquième Guingamp, 32. Quant au Restart, ils sont 14e avec 22 points. Devant 3, 15e, 21 points. 16e Ajaccio, 18 points. 17e Caen qui s'enfonce encore un peu plus avec 15 points. Et 18e Martigues, 12 points. Attention, il y a un beau derby francilien la semaine prochaine. C'est Paris FC Restart. Samedi à 14h, Stéphane.
Imaginez qu'on est le Paris FC est troisième. Hein.
Oui, ils sont barragistes pour l'instant.
N'est que barragiste. Ah, oui. Moi, le discours de la famille Arnaud, comme de Red Bull, qui dit bon, ce n'est pas une obligation de monter cette année, je pense que c'est uniquement pour ne pas mettre trop de pression sur les joueurs, parce que ça serait quand même, si le Paris FC venait à ne pas monter, ce serait quand même un gros coup de frein quand même au projet, quoi. Oui. Parce que, donc, on va voir, je pense qu'ils vont se renforcer encore d'ici la fin là, du mercato pour essayer de pallier à ça, parce que quand même c'est un peu ça serait quand même un petit peu tout le monde veut donner des leçons à la politique du club, c'est bien, c'est ceci, c'est cela, mais bon, ils ont quand même des grands noms, fait des sérieux efforts sur le recrutement, et puis pour l'instant bah ils sont loin d'être en Ligue 1, hein.
Oui. Donc effectivement, bah,
ça va être chaud. Ouais.
Par contre, ça va un petit peu mieux pour le Paris 13 Atlético, hein, puisque ils ont battu Rouen 1-0 à l'issue de cette 17e journée. Le Versailles était exempt. Puis on va rappeler que pour les matchs des équipes de tête, Valenciennes a quand même été gagné à Nancy 2-1 et Orléans et Châteauroux ont fait match nul 1-1. Nancy toujours en tête avec 30 points devant donc Boulogne-sur-Mer et Orléans 29 points. Mais surtout le Paris Atlético 13 qui sort de la zone de relégation. 13e à 18 points, juste devant Nîmes, Versailles 15 points et 16e, donc Villefranche en Beaujolais 14 points, avec Châteauroux bon dernier, largement décramponné, donc 17e avec 10 points. Donc ça va un petit peu mieux pour le Paris 13 Atlético.
Ah oui, surtout que le Rouen, c'est quand même une bonne équipe. Hein. Ils sont mal partis, mais depuis que Régis Brouard a pris l'équipe en main, ils perdent très très peu de matchs. Ils ont tenu un peu la dragée haute à Lille en Coupe de France. Donc c'est vraiment une belle victoire. C'est une super victoire pour le Paris Atlético. Et puis, de toute façon, ce championnat, hein, on l'a déjà dit et redit, c'est un championnat très très compliqué à jouer. Et donc, Tout peut arriver dans ce championnat. Mmh. Et puis aujourd'hui, tant mieux pour eux, ils ont un petit bol d'air.
Voilà. Allez, on finit avec les féminines, 13e journée. Il y avait un gros match, c'était au Parc des Princes, hein, où malheureusement Paris Saint-Germain n'a pas trop existé devant les Lyonnaises, 2-0. Le Paris FC, du coup, vainqueur 6-0 devant Guingamp, passe à la deuxième place. À noter aussi le beau carton de Fleury Mérogil devant Saint-Etienne, 6-0. Donc Lyon en tête avec 37 points, devant le PFC, 30 points. 3e, le PSG, 29. 4e, Dijon, 23. Et 5e, Fleury, 21, Stéphane.
Ouais, tout à fait. Mais comme je dis ici tous les lundis, quelque part, j'ai envie presque de dire on s'en fout complètement. Ouais. Parce que la seule différence, c'est que le match retour du barrage, il se fera à Charletti et non pas au Parc des Princes ou au stade du PSG. Mais bon, le barrage entre PFC et PSG, il est écrit et ça sera ça, c'est ça qui va arriver. Il suffit juste de savoir qui va recevoir ou à l'aller ou au retour, hein, le deuxième contre le troisième. Mmh. Elles ne vont pas être rejointes par Dijon, je ne pense pas, avec 6 points d'avance. Et puis, mais bon, de toute façon, c'est mérité parce que je l'ai déjà dit aussi ici, le Paris Saint-Germain de cette saison, il ne mérite vraiment pas d'être champion de France, ça c'est sûr. Et même à la limite de terminer dans les deux premiers, quoi. C'est pas une équipe qui présente un niveau suffisant, à mon avis, pour ça. Donc ça va. Maintenant, la nouvelle aussi, comme on dit, c'est la semaine dernière, hein, c'est la Coupe de France. Oui. Bah, ils vont essayer de la gagner, la Coupe de France, en essayant d'éviter le Paris FC, parce que le Paris FC, à mon avis, cette saison est peut-être plus solide encore que le PSG.
Très bien, Stéphane, merci. Comme on est des vrais pros, on termine à temps. Voilà.
Voilà,
merci.
Exactement. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci,
bonne soirée.
Stéphane. Voilà.
À la semaine prochaine.
Ouais, juste un petit mot de fin. Merci. La suite, c'est quoi la saison?
La suite, championnat d'Europe, et le 5 février.
D'accord,
et,
c'est récent.
Youth League à Dubaï.
C'est bientôt alors. Très bien, merci, ça a été un plaisir.
Merci.
Hein. Salut, merci.
Tu vois comment ça se passe à la radio, hein?
Ça se passe bien, voilà. Super, bravo.
Allez, merci à toutes et à tous, merci naturellement à Léonard d'avoir mis de main de maître donc une nouvelle fois cette émission. On passe le témoin à nos amis de Au Bout du Foot, et belle soirée à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera handball la semaine prochaine. Voilà, allez, et puis on vous souhaite une bonne soirée. Salut.
Bonne soirée.